La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire.
Voilà 40 ans que président après président, élection après élection, les trahisons, les mensonges et les abandons se succèdent. Par conséquent, nous, Gilets jaunes, exigeons une baisse sérieuse de toutes les taxes et impôts sur les produits de première nécessité, énergie, logement, transport, produits alimentaires, vêtements, et etc. Ainsi qu'une baisse significative de toutes les rentes, salaires, privilèges et retraites courantes et futures des élus et hauts fonctionnaires.
Nous venons donc avec une exigence concrète afin de sortir de cette crise démocratique. Donner au peuple le droit de déclencher un référendum en vue de modifier la Constitution et interdire toute modification de la Constitution sans passer par le référendum. Donner au peuple le droit de rédiger ou abroger une loi sur le sujet qu'il choisit. Donner au peuple le droit de demander un référendum sur toutes les lois votées par le Parlement. Obliger le président de la République à représenter tous les traités, accords et pactes internationaux au référendum avant ratification.
J'appelle tout le monde à rejoindre le mouvement populaire qui, j'espère, sera un mouvement de révolution. Et dans révolution, il y a rêve.
Les voix des Gilets jaunes dans la marche du monde. Depuis novembre 2018, ils font l'événement, ils convoquent l'histoire de la Révolution française. Cahiers de doléances, référendum d'initiative citoyenne, légitimation de la violence. Autant de thèmes présents dans l'imaginaire révolutionnaire. Et c'est ce que nous entendons lorsque Priscilla Ludowski et Maxime Nicole prennent la parole. Ces deux militants devenus des figures du mouvement en raison de leur popularité sur les réseaux sociaux intitule leur texte « Le serment du jeu de paume ». Et en décembre 2018, ils le prononcent devant la salle du jeu de paume à Versailles, référence directe au 20 juin 1789, où plusieurs députés se sont engagés à ne pas se séparer avant l'élaboration d'une nouvelle constitution parce que plus rien ne sera jamais comme avant. Alors justement, qu'est-ce qui se rejoue dans le mouvement social sans précédent qui s'invente depuis l'automne 2018 en France ? 50 ans après mai 68, une autre référence de notre culture révolutionnaire. Une question travaillée au corps par nos deux invités, Ludivine Bantini, historienne et maîtresse de conférences à l'Université de Rouen. Bonjour. Les mouvements sociaux et les engagements politiques sont vos sujets, comme le prouvent vos dernières publications. 1968, De grand soir en petit matin, aux éditions du Seuil, ou encore votre révolution dans la nouvelle collection, Le mot est faible, aux éditions Anna Moza. Qu'est-ce qui vous frappe, Ludivine, dans la manière dont les Gilets jaunes s'approprient les mots de la Révolution, justement?
Oui, merci beaucoup Valérie, et je soulignerai à votre suite ce que vous avez indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire ils font l'événement, ils et elles font l'événement, et s'emparent en effet de la référence révolutionnaire en la souhaitant, en y aspirant. Ce qui est très frappant, c'est qu'il y a véritablement un espoir, l'espoir d'une alternative, et ça faisait longtemps qu'il se dessinait plus avec autant de force, avec autant de ténacité et aussi de courage. Hein. Vous l'avez dit, ils convoquent dans une certaine mesure le passé, mais c'est pour le rendre aussi vivant, c'est pour le rendre, pour se l'approprier et en faire vraiment un enjeu d'actualité. Et ce qui rejoint évidemment l'ensemble du mouvement révolutionnaire, même si bien sûr il y a une singularité de cet événement, celui que nous sommes en train de vivre, l'histoire qui est en train de s'élaborer sous nos yeux, c'est cette aspiration à davantage de justice, à une justice fiscale, on l'a entendu grâce à ces voix que vous nous avez fait écouter, justice sociale également, la question posée à nouveau frais de la démocratie, d'une véritable démocratie, avec toute une élaboration politique sur ce que serait véritablement un régime où on déciderait vraiment de nos destinées collectives et individuelles.
Alors à vos côtés, Guillaume Mazot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également historien, maître de conférences à l'université Paris 1 Sorbonne, et vous travaillez sur les phénomènes révolutionnaires en général et sur la Révolution française en particulier. Vous êtes l'auteur aux éditions Agone du livre « Pourquoi faire la Révolution ?» Non pas « Pourquoi » au sens question, mais « Pourquoi faire la Révolution ?» Et on attend impatiemment votre prochain livre « La Révolution française, une histoire au présent » aux éditions Fayard. Alors justement, Guillaume Mazot, quel rôle ont les Gilets jaunes dans cette histoire de la Révolution au présent?
Eh bien, en quelque sorte, ils nous rappellent à elle. Ils rappellent que quelque chose qu'on a collectivement beaucoup oublié,
oui,
c'est le rôle de cet événement dans notre... dans la naissance de notre communauté civique. Et en reprenant les mots de la Révolution, en reprenant aussi l'imaginaire, les utopies, l'enthousiasme révolutionnaire, il nous rappelle à un ordre ancien dont on est devenu, vis-à-vis duquel on est devenu très étranger, je pense. Et cet ordre, évidemment, c'est pas le même ordre que l'ordre politique néolibéral qui existe aujourd'hui. C'est un ordre qui est fondé sur des idéaux de justice, d'égalité, de démocratie sociale. Donc, ils font un vrai travail d'histoire en faisant l'événement présent.
Alors, est-ce à dire, Guillaume Mazot, que cette notion de révolution se serait effondrée en même temps que le bloc communiste au début des années 90, si on veut remettre dans une perspective plus longue les événements d'aujourd'hui en France?
Alors, la notion de révolution, c'est pas complètement effondrée pour tout le monde, mais c'est vrai que, en tout cas pour les tenants de l'ordre établi, en particulier le néoconservatisme libéral, qui progresse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, c'est vrai qu'il a profité d'un certain nombre d'événements qui ont finalement à la fois perdu, abîmé et retourné même la notion de révolution pour en faire l'expression d'une sorte de régression. Alors que jusqu'alors, la Révolution voulait plutôt dire le progrès, au moins depuis la Révolution française ou les révolutions atlantiques, comme on les appelle, de la fin du XVIIIe siècle. Donc oui, alors dans cet long oubli de la Révolution et de ses aspects émancipateurs...
Et dans cette victoire du libéralisme.
Voilà. Évidemment, l'échec, en tout cas, des révolutions sous leur forme... soviétiques, communistes, etc., a joué un rôle, mais qui, on le voit, à travers beaucoup de mouvements, de soulèvements, de révoltes ou de révolutions depuis la fin du XXe siècle, ne sont pas l'alpha et l'oméga de la révolution.
Ouais. Est-ce que cela veut dire, Ludivine Bantini, que le mot même de révolution aurait été vidé de son sens?
Oui, Guillaume le disait à l'instant, ce mot a été en quelque sorte abîmé, il a été galvaudé, il a été dans une certaine mesure aussi évidé, je pense. Il a été privé de sa dynamique propre, et l'un des adjectifs importants que Guillaume Mazot a prononcé à l'instant, c'est émancipateur. C'est vrai que la révolution s'ancre dans une perspective émancipatrice, alors même que le retournement de ce mot a consisté en une opération d'épuisement du terme, de récupération soit publicitaire, hein, puisque depuis quelques années, tout est devenu révolutionnaire, depuis le fer à friser jusqu'à la paire de baskets, en passant par tel ou tel produit de beauté, soit dans une perspective évidemment politique et idéologique, hein, on peut le voir bien sûr avec l'ouvrage de campagne d'Emmanuel Macron, intitulé, on s'en souvient, Révolution, et qui était aussi une manière finalement d'émousser le mot dans une certaines mesures et de décrire en effet cet ordre qui n'a plus rien de nouveau justement et qui n'a plus rien de révolutionnaire même dans sa dynamique propre, c'est-à-dire c'est un programme finalement qui est remis régulièrement sur le métier depuis une quarantaine d'années, qui est un programme néolibéral extrêmement agressif du point de vue social et politique, mais qui se pare sous les oripeaux de la révolution pour faire en sorte que ce mot ne soit plus subversif, hein, qu'il perde en fait sa dynamique et tout son potentiel créateur et contestataire de cet ordre établi.
Alors, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes impulse un retour de l'histoire, un réveil de 1789, un retour de la Révolution française? En ce qui concerne la comparaison entre le mouvement et la Révolution française, je vous propose d'écouter l'analyse de Mona Ozouf, l'une des grandes spécialistes du sujet. Elle s'exprimait en mars 2019 dans l'émission de Pascal Paradou sur RFI.
La revendication actuelle, la récrimination actuelle, la doléance actuelle, recoupe des thèmes qui sont ceux de la Révolution française. Il y en a un qui saute aux yeux immédiatement et qui est la défiance à l'égard de la représentation. Tels que les représentés se disent qu'ils sont trahis par les représentants et que de leur côté, les représentants se disent qu'ils sont l'objet de la vindicte des représentés. Le problème naît immédiatement à l'aube de la Révolution française. Il naît comment ? Parce que les délégués des États généraux qui arrivent à Versailles au printemps 89 renoncent très vite, et ça c'est un gros problème de la Révolution française, à représenter les intérêts de leur paroisse, qui sont parfois des choses très locales, très menues, pour se dire Assemblée nationale, c'est-à-dire représentant de la nation tout entière et pas seulement des gens de telle ou telle commune qui voudraient ouvrir un chemin vicinal ici ou lutter contre le droit de chasse du seigneur là ou que sais-je. Ils inventent la nation et ils inventent la mort du mandat impératif. Le mandat impératif, c'est la nécessité qui est faite aux délégués qui arrivent à Versailles d'être porteurs de la récrimination locale. Rien que là-dedans, qui est un phénomène absolument inaugural dans la Révolution française, tient le problème de la représentation auquel nous sommes toujours affrontés.
Le problème de la représentation du peuple par ses élus à l'Assemblée nationale est inaugural dans la Révolution française, nous dit Mona Ouzouf. C'est donc la remise en question de la démocratie représentative, Guillaume Mazeaud, qui est déjà posée à l'origine même de la constitution de l'Assemblée nationale en France.
Oui, cette analyse de Mona Ouzouf, je la partage en grande partie. En même temps, il faut rappeler que ces députés, au départ, en inventant le mandat représentatif et non pas impératif, c'est justement pour lutter contre le fait qu'ils sont là pour défendre des intérêts particuliers. Ils sont mus par l'idée de l'intérêt général qui dépasse les communautés et qui dépasse. Donc c'est aussi pour ça qu'ils inventent ça. Et j'ajouterais aussi qu'il y a aussi une raison qui est d'ordre social. C'est-à-dire que eux, ils sont la plupart du temps issus de la bourgeoisie ou de la noblesse. Et que très rapidement, quand ils veulent construire quelque chose ensemble dans l'Assemblée nationale, ils s'inscrivent pas du tout dans le même temps que ceux qui les ont élus. Et donc quand ils voient des gens qui leur demandent d'arbitrer à leurs conflits très pressants ou de répondre à leurs besoins très pressants, c'est-à-dire manger à leur faim, subsister, diminuer les prix des produits de première nécessité, eh bien ils répondent non, on le fera plus tard. Ça, c'est pas une urgence. L'urgence, c'est la Constitution, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Et là, c'est la première grave crise de la représentation. Ça aboutira aux journées d'octobre 89 et à la confrontation du peuple et de ses représentants et la mise en évidence du fossé incroyable qui est déjà en quelques mois s'est installé.
Et aujourd'hui, sur les groupes Facebook des Gilets jaunes, les internautes font largement part de leur désillusion face au fonctionnement de la démocratie représentative. En témoigne cette semaine encore sur le groupe Facebook Gilets jaunes, regroupant 200 000 membres, la publication d'un internaute anonyme affirmant en lettres capitales « On s'en fout de voter, on veut la révolution ». Ludivine Bantigny.
Oui, même si le mouvement à cet égard est partagé, hein, il y a une partie aussi des Gilets jaunes qui considèrent qu'il faut aussi voter et articuler cette lutte au vote, hein, cette lutte dans la rue et cette lutte aussi pour une démocratie directe au vote. Donc il y a un vrai partage, disons, de stratégie. Mais précisément, ce qui est très intéressant au travers de ce type de texte, c'est qu'il y a une réflexion stratégique. C'est qu'il y a une réflexion qui est profondément politique dans tous les sens du terme. C'est d'une part des aspirations, et Mona Ouzouf a raison d'insister sur la doléance, mais il y a aussi de l'espérance. Il y a des cahiers de doléance, mais des cahiers d'espérance en quelque sorte, parce que voilà, il ne s'agit pas uniquement de récrimination, mais il s'agit de porter des espoirs, il s'agit de porter des aspirations qui sont émancipatrices, et en ce sens c'est un mouvement en effet qui est profondément politique, au sens où il fait du commun, voilà, où des hommes et des femmes qui jusqu'à présent n'avaient que très peu la parole, en tout cas dans l'espace public, la prennent, se sentent légitimes à la prendre, et élaborent justement des voies possibles, avec de la conflictualité évidemment au sein même du mouvement, et c'est ce qui fait la chose politique, précisément, c'est qu'il y a du conflit, c'est que tout n'est pas lissé et polissé, en quelque sorte, mais il y a vraiment une interrogation profonde, structurelle, avec des dynamiques qui sont politiques, et puis politiques aussi au sens stratégique, c'est-à-dire essayer de trouver des voies, de réfléchir à la question, en effet, de la représentativité. Il y a une part du mouvement des Gilets jaunes qui réfléchit vraiment et s'attelle à expérimenter des formes de démocratie directe. On l'a vu parmi bien d'autres lieux à Commercy notamment, ou à Saint-Nazaire, ou encore à Montreuil, il y aurait bien des exemples à citer. Et d'autres qui s'interrogent tout simplement, non pas tant sur la dimension de la démocratie représentative, mais sur le fait que précisément cette démocratie qui peut être représentative ne l'est plus aujourd'hui. Voilà, une déconnexion d'ailleurs à la manière de celle que décrivait à l'instant Guillaume Mazeau sur le moment 1789, une déconnexion entre les élus et celles et ceux qui sont censés représenter, mais avec une déconnexion sociale qui devient profondément politique.
Et sur le fait justement qu'en quelque sorte le contrat serait rompu, puisque depuis 1789, la question c'est je veux bien payer mes impôts, mais en contrepartie, il faut que mon représentant, en quelque sorte, se charge de faire aboutir mes doléances et mes espoirs.
Oui, vous avez raison d'insister sur ce point, d'autant que, comme on le sait, le 17 novembre 2018, le mouvement est parti d'une revendication sur la fiscalité, mais contrairement à ce qu'on a pu dire chez un certain nombre de critiques du mouvement, un certain nombre de contempteurs de ce mouvement, c'était pas un rejet de l'impôt, évidemment. C'est une perspective qui réfléchit à la justice fiscale et qui réfléchit tout simplement à une distribution beaucoup plus juste des richesses.
La question des revendications est cruciale dans la révolte des Gilets jaunes, mais pour Mona Ozouf, la comparaison ne tient pas avec 1789.
C'est un mouvement de revendication individuelle, et c'est pourquoi je pense qu'il y a quand même une différence fondamentale, c'est que les hommes de la Révolution partaient dans cette aventure avec des idées et des rêves d'avenir. Or, je ne vois pas beaucoup ces rêves d'avenir et ces idées d'avenir dans les revendications des Gilets jaunes. C'est là la grande différence avec la Révolution française. Je les vois plutôt habitées par la défiance et le ressentiment.
Pour l'historienne de la Révolution française, Mona Ozouf, la différence essentielle entre le mouvement des Gilets jaunes et les acteurs de la Révolution française, c'est justement le manque d'utopie, le manque de vision d'un avenir commun. Est-ce que vous partagez cette analyse, Ludivine Bantigny ?
Non, mais j'ai l'impression que de toute façon, on est au cœur d'un événement. On est au cœur du déploiement même de cette histoire qui est en train de se faire. Donc c'est très difficile d'être péremptoire, d'être catégorique, d'avoir un jugement tranché sur ce qu'il serait ou ne serait pas. Donc évidemment, chaque vision mérite d'être respectée comme telle. Celle de Mona Ozouf, je ne la partage pas parce que j'ai eu l'impression, en allant dans tant de manifestations, de lieux de rassemblement, de réunions de gilets jaunes, de moments de discussion extrêmement intense, que non, il n'y a précisément pas que ce ressentiment que Mona Ozouf évoque à l'instant, mais il y a beaucoup d'espoir précisément, hein, de changer la vie. Changer la vie, c'était les mots de Rimbaud, c'est quelque chose qui avait aussi beaucoup animé les protagonistes de 1968 et on le retrouve aujourd'hui. Alors évidemment que la formulation et l'élaboration de ces espoirs est très difficile parce qu'il y a un sentiment d'écrasement. Ça a été dit au tout début de l'émission lorsqu'on entendait l'une de ces voix de Gilets jaunes qui disait mais voilà, ça fait des années, des décennies en fait, qu'on a le sentiment d'avoir été trahi par des promesses qui ne sont jamais tenues. Et donc, en fait, c'est faire porter la responsabilité sur ces gilets jaunes que de réélaborer de la promesse, alors même que le personnel politique ne le fait plus depuis trop longtemps. Mais justement, cette promesse, elle se traduit dans le récit politique qu'on voit d'ailleurs au dos des gilets jaunes, sur le dos des gilets concrètement. S'écrit un texte politique qui est pétri justement d'espoir, qui est pétri d'utopie, qui dit, bon, pour reprendre aussi le titre d'un film qui rend hommage à ces gilets jaunes et qui les fait parler, je veux du soleil. Et voilà, il y a aussi une forme de lumière à entendre dans tous les sens du terme, mais aussi dans le sens historique. Retrouver une rationalité politique et retrouver un agissement politique, une façon d'être en acte politiquement, tel que la période des Lumières l'avait ouvert.
Alors, je vous propose que l'on revienne un peu sur la chronologie du mouvement initié en France. La première manifestation, c'était le 17 novembre 2018. Premier acte, à l'appel de dizaines de pages Facebook, et c'était contre la hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Mais avec le temps, les revendications dépassent la question du pouvoir d'achat, et quelques mois plus tard, sur le site internet Le Vrai Débat, lancé par des Gilets jaunes pour concurrencer le grand débat gouvernemental, les résultats de la consultation, qui auraient attiré environ 45 000 contributeurs, montrent que trois revendications arrivent en tête. L'instauration du référendum d'initiative citoyenne, le RIC, la prise en compte du vote blanc et la renationalisation des autoroutes dites amorties. Alors, ce site internet organise actuellement des assemblées citoyennes délibératives dans le but de produire des propositions de loi répondant au thème, bien sûr, plébiscité par les internautes. Et Guillaume Mazeaud, depuis le mois de décembre, ce qui est intéressant, c'est que des mesures ont également été prises sans précédent par le gouvernement, par Macron, annoncées le 25 avril dernier. Baisse de l'impôt sur le revenu, réindexation des petites retraites sur l'inflation, annonce de 20% de proportionnel à l'Assemblée nationale et au Sénat, création d'un RIP, référendum d'initiative partagée, baisse du nombre de parlementaires, nouvel acte de décentralisation à partir de 2020, fin des grands corps de l'État. Est-ce que là, quelque chose se rejoue au fond, de la même façon qu'en 1789, c'était formulé une façon d'organiser justement la République?
Alors, il faut être évidemment très prudent. On ne sait pas très bien qui sont les Gilets jaunes. On ne sait pas très bien non plus ce que ces revendications représentent. Donc, je crois qu'il faut faire très attention. Moi, ce que ça m'évoque, c'est évidemment, en tant qu'historien de la Révolution française, puisque je parle dans cette qualité-là, c'est évidemment le rapport de force qui s'est noué entre une partie de la population et le pouvoir monarchique au moment des États généraux. Hein. D'ailleurs, c'est souvent comparé, hein, le grand débat national, les cahiers de doléances qui ont été repris. Et ce que je note, c'est évidemment la déconnexion. La déconnexion, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a un rapport là qui est en train de se jouer, il y a une réaction, etc. Mais qui me semble être de toute petite proportion par rapport à ce que, aux revendications.
Le fait que le référendum d'initiative citoyenne, qui semble être une revendication qui pourrait rassembler énormément de manifestants et plus largement énormément de Français, semble avoir trouvé un écho dans une proposition du côté gouvernemental à travers ce référendum d'initiative partagée. Est-ce que là, il y a une écoute et une contre-proposition?
En tout cas, il y a une petite réponse, mais en tout cas, je pense que si le mouvement continue, c'est que visiblement, la réponse n'est pas là. Hein, et il est de la responsabilité de tout pouvoir politique qui se dit démocratique d'apporter une réponse. Moi, en tant qu'historien de la période moderne, des révolutions, je reviendrai plutôt sur la revendication qui me semble la plus essentielle. On dit pouvoir d'achat. Ils demandent plus de pouvoir d'achat. Ça, c'est une vision très négative de présenter les choses. On les a beaucoup critiqués comme ça, les Gilets jaunes, comme si, finalement, eux aussi voulaient leur part du gâteau, s'enrichir, participer à la société de consommation.
En tout cas, boucler la fin du mois.
Alors voilà. On pourrait le dire autrement, c'est le droit à la subsistance. En fait, je veux dire, beaucoup de ces gens-là, quand même, c'est pas qu'ils veulent s'acheter une voiture en plus, etc. C'est juste, ils veulent avoir les moyens honnêtes et dignes de subsister et de s'intégrer, oui, à la société qui est une partie, qui est en partie une société de consommation. Donc, et ça, je pense pas que, pour l'instant, en tout cas, il y ait une vraie réponse en termes de rétribution sociale.
Y compris avec la baisse des impôts.
C'est marginal, c'est marginal. Je veux dire, les inégalités sont tellement fortes que ça, c'est des... Et puis, il faut faire attention aussi aux demandes de rétablissement, par exemple, de l'impôt sur la fortune. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas de la jalousie, comme on dit souvent, hein, la volonté de finalement rabaisser les riches. Mais non, c'est une vision généreuse et enthousiasmante de la société qui est celle d'un partage et d'une réciprocité que demandent les Gilets jaunes là. Et ça, là aussi, c'est de très long terme. Hein. Pendant la Révolution française, la limitation des salaires, la critique de l'enrichissement excessif. Là, la révolution commence avec le pillage des magasins et de la demeure de Réveillon, un nouveau riche en quelque sorte qui avait fait fortune dans le papier peint et qui était dans la demeure d'un luxe complètement insolent, trônait au milieu du faubourg Saint-Antoine, un faubourg très pauvre. Voilà, on retrouve donc de très 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 longues tendances dans ce mouvement des Gilets jaunes et je crois que là, pour l'instant, les réponses sont finalement très ponctuelles et timides.
Depuis 40 ans, on a fait confiance aux politiques et aux syndicats. Depuis même plus de 40 ans, en fait. Et ça n'a jamais fonctionné. Nous n'avons plus besoin de partis politiques, de politiciens professionnels et de syndicats. Les syndicats ont prouvé depuis des années qu'ils avaient tué toutes les luttes sociales et qu'ils avaient fait en sorte que le peuple s'endorme. Et les politiques essayent toujours de compliquer les situations avec des belles phrases, des beaux discours, des choses bien structurées. Et finalement, derrière, on t'endort et on te dit que t'es dans la merde, mais c'est normal. Les solutions sont collectives. Et vous le savez parce que sur les ronds-points, par exemple, qu'est-ce qui vous a permis d'assembler le camp, de faire en sorte qu'il fonctionne tous les jours, de l'approvisionner en nourriture, de l'approvisionner en discussion, etc., etc., etc. C'est la collectivité. Et ça s'arrêtera pas. Parce qu'à partir du moment où maintenant on a compris ce qu'on ne voulait plus, et ben en fait, ce sera une bataille de tous les jours pendant les 10, 20, 30, 40, 50, 60 années qui viennent à faire comprendre à nos gosses qu'il faut se battre. Quand il y a quelque chose qui paraît anormal, et qui paraît illogique et qui paraît injuste, il faut se battre pour changer ces choses-là.
Dans ce live Facebook, Maxime Nicole, alias Flyrider, dans la marche du monde, anciennement engagé à l'extrême droite et qui a aujourd'hui renié ses premières positions, il exprime l'urgence de la lutte contre l'injustice sociale et la défiance générale partagée par les Gilets jaunes à l'égard des syndicats et des partis politiques et le fait que plus rien ne sera plus jamais comme avant. Ce qui m'évoque votre écriture dans votre livre Révolution, Ludivine Bantini. Vous écrivez entre autres que la révolution est un passage à l'acte qui fait basculer l'état du monde dans le passé.
Oui, vous l'avez souligné encore à l'instant, plus rien ne sera jamais comme avant, c'est-à-dire qu'il y a cette conscience de faire l'histoire, de faire, de participer activement à cette histoire qui habituellement semble se mener sans nous, précisément parce que tout est fait pour nous enlever toute forme de responsabilité dans la décision politique. Donc là, c'est une manière de reprendre pied sur les destinées, de reprendre pied dans la décision. Et c'est très important en termes de dignité aussi. Hein. Il en est énormément question de relever la tête. Sur certains gilets jaunes, par exemple, on a pu découvrir cette phrase « Nous sommes tous des hommes et des femmes politiques ». Ça m'a paru vraiment essentiel parce que c'est une manière de dire voilà, la chose politique n'appartient pas à celles et ceux qui détiennent le pouvoir, qui sont à la tête du gouvernement.
Alors justement, par ailleurs, j'ai réécouté de nombreux discours du candidat Emmanuel Macron à la présidence de la République en 2017, et l'on retrouve cette défiance à l'égard des politiciens de droite et de gauche depuis 40 ans, lui aussi s'inscrit dans cette temporalité qu'on retrouve de nombreuses fois dans de nombreux textes, dans de nombreuses paroles de Gilets jaunes. C'est quoi cette rupture d'il y a 40 ans, Ludivine Bantini, que l'on retrouve très fréquemment dans les prises de parole des Gilets jaunes?
Oui, mais c'est vrai qu'il s'est opéré un tournant au début des années 80. C'est clair, et on l'a rappelé les unes et les autres, les uns et les autres autour de cette table, avec cet ordre néolibéral qui s'est imposé là, évidemment, avec les discours qui ne sont pas seulement ceux de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. C'était une manière d'imposer une sorte de résignation au monde tel qu'il est, à la nécessité du profit exacerbé, de la concurrence, de la compétition. Et donc tous les espoirs qui avaient pu naître de l'arrivée de la gauche au pouvoir se sont très rapidement taris, et peut-être même beaucoup plus rapidement encore qu'on l'imagine en général. On parle souvent de 1983, le tournant supposé de la rigueur, mais ce qu'on peut montrer en réalité, c'est que ce n'est pas véritablement un tournant, mais quelque chose qui se fait par déplacement assez rapide dès l'octobre et dès l'automne 1981, avec un changement en fait radical de politique, hein, une politique de la demande néo-keynésienne par la relance par les salaires, l'augmentation des salaires, des pensions, etc., qui est remplacée par une politique de l'offre, des investissements, des encouragements apportés aux entreprises, et donc tout ce discours de l'entreprise comme une entité qui serait à la fois homogène et harmonieuse, donc qui abandonnait justement l'idée même qu'il y aurait de la conflictualité. Or, il y a de la conflictualité, or depuis justement, depuis 40 ans, ces inégalités dont on a parlé croissent de manière vertigineuse, et donc la déception a trouvé les années 80 comme berceau, et en même temps, depuis environ 15 ans, il y a aussi des sursauts démocratiques, il y a aussi des mouvements révolutionnaires, bien sûr qu'on pense au Maghreb, au Machrek, hein, ce qui se passe à actuellement en Algérie est exemplaire à cet égard, bien évidemment, ce qui se passe au Soudan. Bref, c'est une manière de refuser justement la résignation à la passivité.
Sire. Sire.
Qu'y a-t-il ? C'est une révolte ?
Non, sire. C'est une révolution.
Dans certains cas, il faut savoir désobéir et savoir aussi fabriquer des bombes en chambre.
Je vais vous faire voir un cocktail Molotov. C'est un engin incendiaire. Pour l'utilisation de cet engin, vous le lancez. Au moment où la bouteille se brise, vous avez une violente réaction chimique.
Aprendimos a quererte en este histórica altura. Sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia.
Rassaira, saira, saira, les aristocrates à la lanterne. Rassaira, saira, saira, les aristocrates on les pendra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever d'une misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates on les pendra.
Les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tend dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé faisons table rase, fous l'esclave, debout, debout.
We want a revolution. Intelligent revolution must be African education. We want a revolution, young people revolution. Intelligent revolution must be black people education.
Vous êtes bien sur RFI au son de la révolution, synonyme d'espoir et d'émancipation, mais aussi de prise de pouvoir et d'éradication du passé. Une révolution jubilation, comme l'évoque si bien notre invitée historienne Ludivine Bantigny, et en même temps une révolution terreur sur laquelle a beaucoup réfléchi Guillaume Mazot. Une révolution inscrite dans nos gènes, dans notre intime, selon le metteur en scène de la pièce « Ça ira », Joël Pomera.
Notre histoire, c'est quelque chose de très intime. Notre histoire individuelle, c'est quelque chose de très intime. Mais je crois que aussi notre histoire collective, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a en soi, qu'on a intégré, qui nous fait agir. Et dans le fond, je crois que en essayant là vraiment de me concentrer sur une pièce historique, je continue à explorer la question de l'identité au plus profond. J'avais envie de travailler sur les idéologies, sur la pensée, les croyances, les préjugés, toutes ces représentations mentales qui conditionnent nos vies, nos relations aux autres, nos choix. Et j'avais très envie de basculer un petit peu en arrière par rapport à notre période présente. Et au départ, je pensais vraiment chercher des grands événements au XXe siècle. Et puis, dans mes recherches, je suis tombé sur des ouvrages sur la Révolution et je me suis rendu compte ce que j'avais peut-être jamais su ou que j'avais oublié, mais de l'extrême proximité du point de vue idéologique entre cette période et la période actuelle. Ce qui est entamé à ce moment-là du point de vue politique est toujours en question et n'est pas réglé, n'est pas résolu. On pourrait même dire que les grands principes que la République va établir quelques années plus tard, finalement, ces grands principes égalité, fraternité, liberté, sont installés, mais ont encore de quoi être approfondis largement, très largement. Et c'est peut-être que le combat, il est moins frontal, mais ce combat pour ces principes, pour ces valeurs, il est toujours nécessaire, essentiel, et la lutte idéologique, on pourrait dire ça comme ça, elle n'est pas terminée.
Et ce combat pour les valeurs de la Révolution pose la question de la violence. Jusqu'où la violence peut-elle être légitimée par les idées révolutionnaires?
Certes, la population nous a soutenus, nous a permis de maintenir cette assemblée debout, mais est-ce que ça justifie tout? Justifie la sauvagerie? Justifie les massacres et cette boucherie? Et tous ces hommes et ces femmes qui se font exécuter, assassinés actuellement d'une manière aussi atroce? Peut-être l'ancien ministre M. Foulon et son beau-fils Berthier étaient-ils coupables de fraude et de détournement? Mais selon moi, ils avaient le droit à la justice et à un jugement digne de ce nom. On vient de me révéler il y a quelques minutes que le maire de Paris avait essayé de convaincre leurs tortionnaires qu'un procès exemplaire allait leur être réservé. Mais les gens n'ont rien voulu entendre. Ils ont menacé de détruire l'hôtel de ville et ils ont exécuté leur proie qu'ils détenaient entre leurs mains, tels des prédateurs. Ensuite, mesdames, messieurs, ces gens ont arraché le cœur de la poitrine de M. Berthier et l'ont exhibé pareil à un trophée en chantant et riant avec enthousiasme. Je ne peux pas comprendre que dans cette assemblée, on puisse cautionner ou excuser de tels actes.
On ne l'excuse pas.
Je me sens trahi à la fois par ce peuple et je me sens trahi par tous ceux ici qui l'excitent encore plus en justifiant de telles monstruosités.
Guillaume Mazeaux, vous êtes un spécialiste de la question de la violence dans le long processus qu'a été la Révolution française et vous êtes également le conseiller historique de Joël Pommerat dans l'écriture de cette pièce, « Saïra », qui appelle, là encore, l'exercice de la comparaison entre le mouvement des Gilets jaunes et 1789.
Oui, alors, à travers la question de la violence, c'est une question qui est en permanence mise en avant par la plupart des médias, je dirais, et qui déforme complètement notre perception de ce qui arrive. Et pour le coup, c'est une comparaison assez intéressante avec ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Alors oui, la violence accompagne la Révolution très très rapidement, hein, dès les premières journées de la Révolution française. Pas au hasard, c'est à chaque fois ceux qui ont exercé des lourdes responsabilités dans la répression des populations de l'Ancien Régime. Et là, on parle d'une violence terrible, hein. La répression des émeutes réveillons à la fin du mois d'avril 89, juste avant les États généraux. Donc des ouvriers qui se soulèvent contre la rumeur selon laquelle on voulait baisser les salaires, qui étaient tout petits, hein. C'est 300 morts. Et c'est les gardes françaises qui tirent à vue toute la journée sur les ouvriers. Bon, donc c'est quand même des gens, voilà. Alors oui, ces gens, par contre, ils sont lynchés, leur tête est coupée, etc. Donc c'est une violence terrible et qui tout de suite divise évidemment les révolutionnaires. Ce que je veux dire, c'est que la violence n'est pas consubstantielle à la Révolution. Quand est-ce qu'elle arrive ? Elle arrive en revanche quand il n'y a pas de réponse politique et qu'il n'y a pas de justice suffisante qui est apportée suffisamment rapidement au monde terrible qui existait jusqu'avant. Puisque si il y a une révolution, c'est que le monde était terrible et qu'il n'y avait probablement pas d'autre solution. Alors aujourd'hui, la comparaison qui me viendrait avec aujourd'hui, c'est que j'ai pas vu beaucoup de théoriciens de la violence avant novembre 2018 parmi les Gilets jaunes, sauf peut-être quelques-uns, mais enfin, c'est pas du tout représentatif. En revanche, avec le temps, avec la violence de la répression, avec la surdité et la défiance qui continue de s'installer, oui, la violence peut arriver, mais après, il faut aussi savoir qualifier cette violence, hein. C'est pas n'importe quelle violence.
Alors justement, Ludivine Bantini, en quoi le 1er mai 2019 constitue une rupture, selon vous, dans l'exercice de la répression gouvernementale contre ce mouvement des Gilets jaunes?
La réponse serait assez classique en termes de rupture et continuité. Alors ça paraît très galvaudé de le dire de cette façon, mais continuité quand même, parce que on se situe quand même dans un cycle de violence dans la répression policière qu'on peut situer d'abord dans la manière dont elle s'abat sur les quartiers populaires, les gardes de population qui sont quand même systématiquement ciblés, et la façon dont on a vu les jeunes de Mantes-la-Jolie un certain 6 décembre 2018 agenouillés contre un mur, les mains sur la tête, dans une position d'humiliation avec un policier qui disait « voilà une classe qui se tient sage », c'était en quelque sorte le symbole d'un certain acharnement quand même qui fait que dans ces quartiers, des collectifs se sont créés depuis des années pour dénoncer cette répression policière qui conduit à des morts. Et récemment, un rapport de l'Inspection Générale de la Police Nationale a reconnu qu'il y avait environ un mort par mois, en moyenne, lors d'opérations de police. Et puis, il y a un deuxième moment qu'on peut dater de 2016 avec le mouvement anti-loi de travail qui avait été particulièrement réprimé. Et donc, en fait, ce qui s'est passé le 1er mai, c'est une accélération considérable de la répression policière, puisque les forces de l'ordre s'en sont pris tout aussi bien à des manifestantes et des manifestants gilets jaunes qu'à des syndicalistes. Et l'une des choses rares à laquelle on avait très peu assisté jusqu'à présent, c'est la manière dont cette violence s'est abattue sur des cortèges syndicaux, sur des responsables syndicaux. Donc là, il y a une symbolique en quelque sorte, une limite, un seuil de tolérance qui a été franchi, mais qui est en quelque sorte la synthèse d'un cycle de violence qu'on connaît dans les quartiers populaires depuis des années et des années, et qu'on connaît aussi dans la répression des mouvements sociaux depuis plusieurs années aussi. Donc finalement, c'est la résultante de ce cycle-là qu'on avait aussi vu s'ouvrir avec la répression contre le mouvement anti-loi travail.
Nous accusons, c'est donc le titre de cette pétition. Je vous propose d'écouter les explications de l'un de ses rédacteurs, Maurizio Gribaudi.
Nous accusons le ministère de l'Intérieur de provoquer sciemment les réactions de violence dans nos villes, sur le rond-point et le lieu de discussion publique, afin de criminaliser toute personne qui s'oppose à ces lois et à ces politiques funestes. Écoutez, après le 1er mai, j'étais tellement en colère en discutant avec les amis et les collègues. Ce qui ressortait tout de suite, c'était cette violence totalement gratuite, mais aussi cette folie presque meurtrière, je dirais. Donc, ça m'a rappelé Zola, évidemment. Ça m'a rappelé aussi la manipulation du pouvoir telle qu'elle avait été faite déjà à l'époque. Je pense que personne n'avait dit jusqu'à maintenant qu'il faut accuser ce pouvoir et ce représentant, finalement, d'essayer de regarder ces mouvements à travers un œil uniquement inquisiteur et d'essayer de, quelque part, provoquer. Moi, je pense qu'il y a vraiment une tentative de provocation de guerre civile. On ne peut pas l'expliquer différemment.
Enseignants-chercheurs, les initiateurs de la pétition « Nous accusons » posent aussi la question de l'engagement des intellectuels dans un mouvement social qui fait face à la répression. Écoutez l'analyse de Michel Rio-Sarcé.
Quand on fait taire, quand on écrase l'idée même qui veut dire république démocratique et sociale pendant des décennies, qu'on le veuille ou non, cette idée ressurgit avec d'autres mots, avec d'autres personnes, dans un autre contexte antagonique. Et tout d'un coup, cette population révèle que la démocratie n'est pas tout à fait celle à laquelle on a adhéré, nous permet de ressaisir ce que fut la République à l'origine, c'est-à-dire la République, c'était la res publica, la chose publique. Et cette République, on le sait et on le voit, a été accaparée par une minorité de privilégiés. Et si on compare, par exemple, les assemblées actuelles, elles ressemblent étrangement aux assemblées des années 1789-91. Sociologiquement, ce sont les mêmes.
La révolution est vivante. 1789 n'est pas une date de l'histoire de France circonscrite à nos livres d'histoire. Elle irrigue le corps social au point que les intellectuels s'engagent. Comme vous, Guillaume Mazot, comme vous, Ludivine Bontigny. C'est le retour de la lutte des classes.
En tout cas, c'est le refus de voir les savants, les intellectuels, et en l'occurrence les historiennes et les historiens, à une position de neutralité et de retrait.
Mais ça, c'est pas inhérent à votre position de chercheur, la neutralité, la distance?
Non, ça, c'est vraiment quelque chose de fabriqué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, qui revient beaucoup aujourd'hui et qui place les sciences sociales, la sociologie, l'histoire dans une position dans laquelle on devrait justement jamais prendre position pour faire bien notre travail. Or c'est d'abord impossible, hein. Pour ça il faudrait être mort, hein, pour être neutre, ou alors être un robot, donc on ne l'est pas. Et d'autre part, l'engagement, il permet de voir des choses, il permet de débloquer des choses, il permet de comprendre des choses que l'hypocrisie de la neutralité permet pas du tout. Hein. On est de toute façon impliqué dans la société. Alors pour ma part, moi je le porte pas en étendard, mais j'en fais pas mystère. Et à partir du moment où c'est un objet de connaissance, c'est un outil de connaissance, les historiennes et les historiens ont leur rôle à jouer dans l'émancipation collective. À partir du moment où ils emploient les méthodes de l'histoire, ça me pose non seulement aucun problème, mais au contraire je trouve que c'est une très bonne manière de faire son travail et d'être présent au monde.
Et d'être présent sur les ronds-points, Ludivine Vantini, donc.
Oui, d'être présent et présente là où l'histoire est en train de se faire. Encore une fois, on l'a dit tout au long de cette émission, c'est très difficile de ne pas prendre ce train en marche, hein, pour reprendre la formule de l'historien des États-Unis, de l'histoire populaire des États-Unis, Howard Zinn. Donc le train de l'histoire ne va pas nous attendre, il est là, donc on ne va pas le regarder de manière passive et résignée.
Merci à tous les deux. Je rappelle que vos ouvrages et nos compléments d'infos sont à retrouver sur la page de La Marche du Monde sur RFI.fr.
La rage du peuple, je la vois tous les samedis. On n'a plus un frein, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois, on crève la dalle. Je te parle pas d'appétit. Il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit, on se bouge, on se mobilise. Que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Elysée balise. On veut pouvoir créer des lois ou bien les contester. Eux nous boycottent dans les médias, nous empêchent de manifester. Ils disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de faim. Pour comprendre que ça va péter, y'a pas besoin d'être devin. On bloque les raffineries, les péages, les flics nous dégagent. Et je peux te dire qu'ils ont la rage, ils poussent des cris quand ils nous chargent. Et le samedi au centre-ville, tout ce que je vois ça me régale. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés d'un masque à gaz, prendre des boucliers et crier, venez on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. De l'autre côté, je vois que des civils, des flics, des CRS nous chassent de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés, enfants en bas âge et personnes âgées. Ils en profitent pour tout gazer.
D'instinct chante ces gilets jaunes sur RFI. Révolution à la française, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et réalisé par Richard Ifounov avec la complicité de notre stagiaire Adrien Simor. N'hésitez pas à réagir, exprimez-vous sur nos réseaux sociaux, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.
Dans les placards des gilets jaunes, il n'y a que des pattes. Derrière les barricades, les vitrines de banque éclatent. Ils nous prennent en étau, nous coincent dans des petites rues, escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui se passe, c'est fou. Je sais pas si tu réalises, ils tirent sur nous, mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi, je te dis que t'as hurle, c'est pas la tienne, c'est la nôtre. Mais que ta dictature, on n'en veut plus chez les vôtres. Et quand tu te trouves là, planté devant les flics et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pas? Et puis quand t'es en plein milieu de la manif, tu vois les flics se ganter. Deux minutes après, tu vois passer des visages ensanglantés. Comment rester calme, pas leur sauter dessus quand ils sont 10 à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue. Et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le sont encore, c'est qu'ils sont pas vraiment dans les manifs. J'ai vu le gars à côté de moi se prendre un flashball en pleine tête. Tu vois que le sang des gilets jaunes coulait, c'est bien ça qui m'embête. Je vois tout le monde jeter des pavés sur les banalisés. Le peuple avec un Manitou casser les portes de l'Elysée. Mais y'a aussi des flics déguisés aux matraques aiguisées qui se font passer pour des casseurs et puis qu'attendent de te faire glisser. Mais je vois aussi des gens faire demi-tour plus que des terres et charger l'escadron pour libérer un gilet jaune à terre. C'est la guerre et c'est pas BFM qui va vous le dire quand elle même paraît être la marionnette du mal qui l'inspire. Et j'en profite pour dire à tout le monde de pas lâcher. Ce qu'on a lancé, c'est propagé dans le monde entier. Faut que vous le sachiez, c'est la révolution. On devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Ah ouh, ah ouh. Gilets jaunes, quel est votre métier? Ah ouh, ah ouh, ah ouh.